en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Qu'est-ce que la matière ? Une bien vaste question qui fait appel aussi bien à la philosophie qu'à la physique. Pour y répondre, quoi de plus naturel que de laisser la parole à Bernard d'Espagna de l'Académie des sciences morales et politiques ? C'est au cœur du Collège des Bernardins que le physicien français a répondu aux questions du père Thierry Magnin, vicaire général du diocèse de Saint-Étienne. Vous comprendrez dans cette retransmission comment un chercheur scientifique entrevoit et vit le lien avec le domaine du spirituel, comme l'explique Thierry Magnin. Dans cet extrait de la conférence que Canal Académie vous propose, Bernard d'Espagna livre ses réflexions sur la mécanique quantique et s'interroge sur le réalisme physique, une notion sur laquelle il s'est penché depuis le début de sa carrière dans les années 60. Vous apprendrez que physique et philosophie ne sont pas si éloignées qu'on pourrait le croire.
Alors la première question que je pense beaucoup envie de vous poser, vous avez enseigné la physique quantique, vous nous en direz un petit peu plus sur ce que c'est bien sûr, et la philosophie des sciences et vous travaillez à l'interface entre les deux. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment ces deux disciplines très différentes, la physique et la philosophie, se sont retrouvées dans votre propre parcours de recherche ?
Évidemment, c'est extrêmement simple. Elles se sont rencontrées d'une façon toute naturelle par le seul fait, d'abord, que la physique quantique se révèle d'être de plus en plus au centre de la physique, au centre de tout ce qui est physique de pointe, et le fait que cette physique pose, depuis son début, elle a toujours posé des questions philosophiques et bon, que ces questions continuent à être posées et à ne pas recevoir les mêmes réponses de la part de tel et tel physicien. Donc c'est normal, si vous voulez, qu'il y ait des questions philosophiques qui apparaissent quand on travaille sur la physique quantique.
Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter, peut-être aussi sous forme d'anecdote, puisqu'après nous allons aller plus avant dans l'aspect scientifique, est-ce que vous pouvez nous raconter quelques moments clés de vos recherches en physique, justement, vous qui appartenez à une génération qui a beaucoup apporté, qui continue d'apporter beaucoup avec la physique du XXe siècle, bien sûr, et ses révolutions?
Eh bien, écoutez, c'est vrai que ce que vous avez dit, que j'ai rencontré des personnes qui sont des grands noms de la physique, Louis de Broglie, Enrico Fermi, chez qui j'ai passé un an, et Niels Bohr, dans l'institut duquel j'ai également travaillé pendant un an. Mais je dois avouer très humblement et honnêtement que je n'en ai pas profité au point de vue philosophique autant que j'aurais dû le faire. Et cela a été dû au fait sûrement que je n'étais pas assez mûr. Mais malgré tout, il y a eu effectivement pour moi un moment clé, c'est celui où John Bell et moi, qui travaillions au CERN, où nous avions des bureaux très voisins les uns des autres, avons réalisé un peu par hasard que nous nous posions, lui et moi, les mêmes questions sur les fondements de la mécanique quantique. Et sans trop poser en parler, parce qu'à l'époque, ce n'était pas du tout à la mode, c'était même très mal vu de se poser ce genre de questions. Alors, donc ça, c'était un moment clé. Mais vous savez, une clé n'en est une que s'il y a une serrure qui est prête pour la recevoir. Et le moment clé, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'un moment clé pour quelqu'un, que si ce quelqu'un a déjà franchi certaines étapes intellectuelles qui l'ont préparé à ce que ce moment soit vraiment un moment clé. En ce qui me concerne, la principale de ces étapes fut la redécouverte, si j'ose dire, de la notion d'enchevêtrement. Alors, je dis redécouverte parce que la notion d'enchevêtrement quantique avait déjà été non seulement découverte, mais proclamée par Erwin Schrödinger, c'est-à-dire vraiment par un des pères incontestés de la mécanique quantique. Eh bien, malgré cet article où il soulignait fortement que c'était non pas seulement une caractéristique de la mécanique quantique, mais la caractéristique essentielle de la mécanique quantique, malgré ça, cette notion d'enchevêtrement, entanglement en anglais, a été complètement passée sous silence. Elle a disparu. Elle a disparu des articles scientifiques, elle a disparu des manuels, et dans les manuels que j'ai utilisé pour faire mon enseignement de mécanique quantique à l'université, elle ne figure pas, tout simplement. Si vous la cherchez à l'index, elle n'y est pas. Je ne sais pas si elle y est maintenant, peut-être. J'imagine qu'elle commence à y pénétrer, mais enfin, elle n'y était pas. Et donc, à l'époque, il fallait la redécouvrir, si vous voulez. Évidemment, elle était en filigrane dans les équations, parce que les équations de la physique quantique, naturellement, y conduisent tout naturellement. Mais elle n'était pas vraiment exploitée, si vous voulez. Et les gens faisaient de l'entanglement comme, sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Et donc, je répète encore une fois, il ne l'exploitait pas vraiment. Alors, comme la chose m'a beaucoup intéressé, cette redécouverte m'a conduit à distinguer, en particulier entre mélange quantique propre et impropre, a contesté l'opinion alors très répandue que les problèmes relatifs à l'opération de mesure étaient résolus, alors qu'ils ne l'étaient pas, et surtout a réalisé que l'idée surprenante d'un enchevêtrement à grande distance, dont nous aurons l'occasion de reparler tout à l'heure, ne pouvait pas être court-circuitée. J'étais donc mûr pour apprécier ma rencontre d'idées avec John Bell, et surtout pour apprécier l'importance de la grande découverte qu'il a faite pratiquement à ce moment-là, en bref, celle de la non-séparabilité. Mais si vous le voulez bien, nous parlerons de ça un peu plus tard.
On va y aller crescendo, parce que l'enchevêtrement et la non-séparabilité, on n'est pas forcément tous familiers avec, et pourtant vous allez voir que c'est essentiel, justement. Alors, dans cette soirée, on ne va pas entrer dans tous les détails, vous vous en doutez, d'une science qui est très complexe, la physique quantique. On va essayer d'en dégager quelques éléments clés et qui, justement, ont inspiré votre réflexion, sachant que c'est une physique très mathématique et qu'on ne va pas faire d'équations ni d'inégalités ce soir, même si on parle de celle de Bell. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire déjà, et puis on va y aller petit à petit, sommairement, en quoi a consisté, vous avez commencé, l'élément clé de votre réflexion sur la physique quantique ?
Eh bien, pour ça, il faut que je vous dise quelle est, à mes yeux, la différence essentielle entre la physique classique et la physique quantique. Les opinions peuvent diverger sur ce point, mais je vous donne mon opinion là-dessus. Pour moi, la différence essentielle entre les deux, c'est que la physique classique est descriptive, alors que la physique quantique est fondamentalement prédictive, et plus précisément prédictive de résultats d'observation. Le caractère essentiel pour moi de la physique classique, c'est qu'elle est descriptive. C'est-à-dire, je le répète, que son but, c'est de lever le voile des apparences et de nous décrire donc la réalité telle qu'elle est en soi. Alors, quand les philosophes ont affaire à une théorie de cette espèce, ils disent qu'elle s'insère dans le cadre du réalisme ontologique. Ontologique, c'est un mot à racine grecque, naturellement, comme vous le savez tous, ontos veut dire être, et donc ontologique veut dire connaissance de l'être. Et c'est vrai que la physique classique s'insérait très bien dans une telle philosophie. Je ne dis pas que tous les physiciens classiques adhéraient à cette philosophie. Il y a des exemples célèbres de physiciens qui n'y adhéraient pas, l'un d'entre eux étant Henri Poincaré. Mais de façon générale, si vous voulez, le gros des physiciens classiques adhérait tout naturellement au réalisme ontologique parce qu'effectivement, il n'y avait pas beaucoup de raisons, a priori, de ne pas y adhérer. Alors, quand la mécanique quantique est apparue, il était évidemment tout naturel d'espérer qu'elle s'insérerait aussi bien dans le cadre du réalisme ontologique. Mais, si surprenant que ça paraisse, quand on a essayé de le faire, on s'est heurté à de très grandes difficultés conceptuelles. Ce n'est pas qu'on n'ait pas essayé, on a beaucoup essayé, enfin, beaucoup d'esprits très brillants, de grands physiciens, se sont efforcés d'insérer la mécanique quantique dans le schéma du réalisme ontologique, qui était courant, si vous voulez. Bon, ils y sont presque parvenus. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à construire des modèles qui y arrivaient presque. Mais pas tout à fait. Et en plus, ces modèles étaient très variés, très différents les uns des autres. Si bien que, finalement, aucun d'entre eux n'a réussi à s'imposer vraiment à la communauté physicienne. Et qu'à l'heure actuelle, nous en sommes là, si vous voulez. Et j'avoue que dans la théorie quantique, La notion de choses existant par elles-mêmes dans l'espace, séparément les unes des autres, et interagissant entre elles avec des forces qui décroissent quand la distance croît, cette notion-là tend à s'estomper au profit d'une certaine globalité qui est cachée, qui n'apparaît pas au regard, mais qui se cache dans les équations, qu'on retrouve dans les équations. Alors tout ça, c'est assez déconcertant. Oui, mais la physique quantique existe. Elle existe même très bien. Elle a volé et elle vole encore de succès en succès. Elle a permis de rendre compte de quantités de phénomènes qui sont inexplicables autrement, qu'on n'avait jamais pu expliquer autrement. Et elle a permis d'en découvrir des quantités d'autres qui existent effectivement, qu'on a pu vérifier par des expériences. Alors, ça pose une question, si vous voulez. Et en fait, ça n'est pas si étrange que ça peut le paraître. Ça n'est pas tellement étrange, ce n'est même pas étrange du tout, parce que, bien sûr, quand on énonce une théorie, et en particulier la théorie quantique, il faut énoncer ses principes constitutifs. Mais il se trouve que les principes constitutifs de la mécanique quantique court-circuitent, si on peut dire, le descriptif. Et il ne commence pas par dire « il existe telle entité, il existe telle autre ». Il parle essentiellement de ce qu'on peut prédire. Ils disent que dans telle circonstance, on a telle probabilité de voir telle ou telle chose. En particulier, pour les physiciens qui sont ici, le principe le plus important de la mécanique quantique, c'est probablement la règle de Born, qui nous dit précisément ça, qui nous permet de calculer la probabilité avec laquelle nous verrons telle ou telle chose si nous faisons telle ou telle autre chose. C'est du prédictif de résultats d'observation. Alors, ce n'est pas étonnant, si vous voulez, que ça marche, puisque l'expérimentateur, c'est ça dont il a besoin. Il a besoin qu'on lui suggère que s'il fait telle expérience, il verra telle chose, ou il a telle probabilité de voir telle chose. Et à ce moment-là, il peut faire l'expérience, et puis on voit si ça marche ou si ça ne marche pas. Donc, personnellement, j'en affaire que la physique quantique n'est pas descriptive, mais prédictive d'observation, de résultats d'observation. Et vu la position centrale de la physique quantique dans la physique, j'en affaire, enfin, j'extrapole en disant que toute la physique est dans cette situation-là. Et vu la situation quand même assez centrale de la physique dans les sciences, j'extrapole encore plus et je prétends que la science entière n'a pas pour but de lever le voile des apparences et de découvrir comment la réalité est en soi, tout à fait indépendamment de nous, mais plus modestement, de donner des règles très synthétiques et très puissantes qui permettent de prévoir ce qu'on observera dans telle et telle circonstance, avec beaucoup de généralité. Et ça, la mécanique quantique le fait vraiment très bien, vous voyez. J'estime donc qu'il faut abandonner le réalisme ontologique. Le réalisme ontologique, c'était très séduisant. La personne qui fait une théorie, qui construit une théorie et qui est dans l'esprit du réalisme ontologique, a vraiment l'impression d'être sur le chemin de la vérité avec un grand V, si vous voulez. Mais il semble que cette impression soit trompeuse et que, en fait, la position plus modeste que vous avez dite, moins métaphysique, plus modeste, est également plus raisonnable, enfin, colle davantage avec la nature véritable de la physique telle qu'on la pratique actuellement. Et compte tenu de la globalité dont vous parlez il y a un instant, j'estime qu'il faut même abandonner l'idée que les objets, élémentaires ou composés, existent en eux-mêmes à chaque instant dans un lieu donné. Il est plus vrai de dire que si nous les voyons ainsi, c'est parce que la structure de nos sens et de notre esprit nous conduit à les voir de cette manière. Alors, je ne vous détendrai pas en vous disant que cette façon de voir n'est pas partagée par l'ensemble des scientifiques. Mais vous direz quand même que je ne suis pas le seul, loin de là, à la nourrir. Parmi les physiciens, il y en a de plus en plus, dans les jeunes générations, qui constatent effectivement, qui pensent un petit peu, qu'effectivement, il y a du vrai là-dedans. Vous disiez tout à l'heure, Henri Poincaré est également un exemple, un illustre exemple d'une personne qui, au fond, pensait de cette manière. Je dirais que dans d'autres disciplines, il y a aussi des gens qui, à partir de faits tout à fait différents, arrivent aussi à cette conclusion-là. En particulier des neurologues, des spécialistes de la cognition, des gens comme Paul Churchill, par exemple. Ces gens-là disent, écrivent, que effectivement, c'est illusoire de tenter de décrire la réalité telle qu'elle est en soi indépendamment de nous et que, en fait, le cerveau ne décrit pas le monde extérieur tel qu'il est, mais décrit essentiellement son propre fonctionnement et comment il organise le monde selon ses propres vues. Oui, et puis vous l'avez dit aussi que, naturellement, cette vue que vous venez de dire, qui surprend les scientifiques, c'est une vue qui a été proposée depuis très longtemps par des philosophes. Le plus connu d'entre eux étant Emmanuel Kant, naturellement, qui disait que la chose en soi est inconnaissable et que tout ce que nous pouvons connaître, c'est la réalité empirique, c'est-à-dire les phénomènes, c'est-à-dire la réalité telle que nous apparaît, compte tenu de la structure de notre esprit et de nos sens. Voilà.
Alors nous entrons dans un monde où pour le physicien, il ne peut plus dire que les objets existent comme ça, qu'ils sont séparables, comme pourtant nos deux micros ont l'air de l'être. Et puis qu'il est obligé d'abandonner le réalisme ontologique. Alors on se dit, est-ce qu'il va devenir, philosophiquement parlant, un idéaliste? Et pourtant, vous allez employer l'expression « réel voilé ». Alors, est-ce que vous pouvez nous situer cette expression qui est si souvent reprise et que vous avez introduite déjà depuis de nombreuses années, la situer à partir de sa source, justement? C'est intéressant.
Bon, jusqu'ici, j'ai raisonné à partir exclusivement de la physique. Mais la physique ne me permet pas d'aller plus loin. Effectivement, je considère, contrairement aux idéalistes, qu'il est incohérent de prétendre écarter radicalement la notion d'être. Mais mes raisons de penser cela ne doivent rien à la physique. Elles sont philosophiques. Bon, si j'essaie de les conceptualiser, si vous voulez, de les mettre noir sur blanc, de les énoncer... Intuitivement, nous avons tous le sentiment, si vous voulez, que la vérité première de notre esprit n'est pas la seule chose qui existe, qu'il existe devant nous une réalité. Mais si j'essaie de formuler ça nettement, je dirais qu'il y a deux arguments pour soutenir ceci. Le premier, auquel les scientifiques sont particulièrement sensibles, c'est qu'il y a quelque chose qui nous résiste. Deux théoriciens proposent à un expérimentateur une théorie qui est parfaite à tous égards, qui est parfaitement logique, qui est élégante au sens mathématique, etc. L'expérimentateur, enfin, elle fait aussi des prédictions, naturellement, c'est très important. Elle fait des prédictions observables, l'expérimentateur fait les expériences correspondantes et il revient en disant, ben non, c'est pas ça. Votre théorie fait des prédictions contraires à ce qui est observé. À ce moment-là, on est bien obligé de rejeter la théorie. C'est donc qu'il y a quelque chose qui a dit non. Et ce quelque chose ne peut difficilement être nous. Il faudrait des acrobaties intellectuelles considérables pour arriver à se persuader que ce quelque chose qui a dit non, d'une certaine manière, c'est encore nous. Donc ça, je crois que c'est un argument logique, si vous voulez, et important en faveur de l'idée qu'il doit y avoir malgré tout une réalité qui ne dépend pas de nous. Et l'autre argument, alors qui plaira moins aux scientifiques, mais peut-être plus aux philosophes, c'est que chez les idéalistes, la pensée est première, n'est-ce pas, puisque toutes les choses ne sont que des apparences, finalement, pour la pensée. Or, pour penser, il me semble qu'il faut d'abord être. Et par conséquent, il me semble que faire de la pensée la chose première ne tient pas, qu'il faut dire que c'est l'être qui est premier, pas la pensée. Donc, pour ces deux raisons, et puis aussi pour notre intuition, si vous voulez, que nous partageons tous, je crois, ici, il faut conclure qu'il faut conserver la notion d'être. Mais en prenant soin de ne pas la revêtir de toutes ces notions de spatialité, localité, temporalité, etc., que implicitement postulent ceux qui proclament que l'être, c'est la matière. Cet être, ce réel ultime, est, je dirais, fondamentalement inatteignable par les méthodes expérimentalo-déductives de la science, lesquelles ne donnent accès qu'à la réalité empirique, en d'autres termes aux phénomènes, c'est-à-dire, je répète, aux apparences valables pour nous tous. Je n'exclus cependant pas que certains traits de la physique, les constantes fondamentales, par exemple, puissent correspondre à des attributs vrais de l'être, parce que il n'y a rien dans la physique qui soit contre cette idée. Vous voyez, je ne prends pas le point de vue idéaliste a priori. Donc, il n'y a aucune raison d'exclure l'idée que certaines choses que nous décrit la physique soient effectivement correspondent à des traits de la réalité en soi. Je ne suis pas dogmatique comme Kant l'était à ce point de vue-là, si vous voulez. Mais je mets un point d'interrogation. Je n'exclus pas sans l'affirmer. Et c'est pour cette raison que, puisque de toute façon, ces aspects sont des aspects très partiels, n'est-ce pas, qui ne nous permettent pas d'avoir une vue réelle de la réalité en soi, c'est pourquoi j'appelle cette réalité le réel voilé. Voilà.
Réel voilé, réel empirique, atteignable par la science, mais il n'y a pas de réel, on le comprend bien. Des traits aussi, parfois. Voilà, ça c'est donc une évolution assez forte hein, par rapport à la vision de la physique classique. Dans ce réel voilé, il y a un autre élément essentiel qui va peut-être aussi toucher à cette définition de la matière, puisqu'on voit bien que tout part de l'évolution de ce qu'on met sous ce mot « matière ». Et qui va toucher aussi à la causalité, me semble-t-il, c'est ce que vous appelez, vous avez déjà nommé, la non-séparabilité. Alors, on a envie d'en savoir plus, bien sûr.
Voilà, bien, je vais essayer. Il y a sûrement beaucoup d'entre vous qui connaissent la mécanique quantique, enfin, des traits essentiels, si vous voulez, de la mécanique quantique. Pensons à un choc entre particules. Deux particules arrivent, se cognent, et puis elles repartent chacune de son côté. Ça, en physique classique, on voit ça très bien, c'est les boules de billard, n'est-ce pas ? Choc entre boules de billard. Comment est-ce qu'on... Mais les particules élémentaires, elles n'obéissent pas à la physique classique, elles obéissent à la physique quantique, c'est bien connu. Les électrons, les protons, etc., n'obéissent pas à la physique classique, elles obéissent à la physique quantique, c'est hors de doute. Alors, comment est-ce qu'on va décrire un choc en physique quantique ? Alors, vous savez tous que l'instrument essentiel, si vous voulez, en physique quantique, c'est la notion de fonction d'onde. Et à l'arrivée, avant le choc, on attribue à chacune de ces particules une certaine fonction d'onde. Et puis le choc a lieu, et les deux particules s'en vont, et on pourra les observer en des lieux très éloignés, si vous voulez. Alors, après le choc, que peut-on dire au sujet de la fonction d'onde ? Eh bien, c'est assez curieux, parce qu'après le choc, en général, on ne peut plus dire que chacune des deux particules a sa propre fonction d'onde. Tout ce qui reste comme fonction d'onde, c'est une fonction d'onde de la paire, une fonction d'onde commune aux deux éléments de la paire, aux deux particules, et qui est d'ailleurs dans un espace à six dimensions, comme il se doit, donc un espace abstrait. Et cette fonction d'onde, quelle que soit la distance à laquelle on observera les particules, cette fonction d'onde reste comme ça, une fonction d'onde commune aux deux. Donc, vous voyez, ça pose un problème parce que c'est tout à fait contraire à notre intuition qui consiste à dire, bon, ben, quand elles sont très loin, elles sont séparées, quoi. Vraiment. Alors, les physiciens s'y sont intéressés et certains ont proposé de dire « Oui, mais vous attribuez une réalité à la fonction d'onde. Peut-être que ce n'est pas à la fonction d'onde qu'il faudrait attribuer une réalité, qu'il faudrait attribuer la réalité à des choses un peu plus subtiles, comme par exemple les matrices densité. » Mais ça ne marche pas non plus. Pour d'autres raisons que je ne vais pas vous expliquer, mais ça ne marche pas non plus. Donc, il y avait un problème là, dont les physiciens étaient conscients depuis longtemps. Mais ils n'avaient pas tellement envie de le discuter parce qu'ils trouvaient que ça sentait un peu trop la philosophie. Et à l'époque, on s'intéressait à une question qui avait des résonances philosophiques. En physique, c'était très mal vu. Des gens qui s'y sont intéressés, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ben, Dirac, par exemple, disait « Oui, il y a des problèmes comme ça, bien sûr, en physique, mais vous savez, les sciences sont comme les civilisations de Valéry, elles sont mortelles. » Et la physique quantique sera probablement remplacée plus tard par une physique encore meilleure, ou peut-être on peut espérer que ces vents de difficultés disparaîtront. Et plus généralement, beaucoup de physiciens disaient « Oh, mais ce sont des vieux problèmes ». Ça, à l'époque où j'étais actif au CERN et ailleurs, c'était une réponse qu'on me donnait souvent. On me disait « Oui, mais ce sont des vieux problèmes. Ce sont des vieux problèmes parce que Bohr les a déjà résolus. » Seulement, ce dont il ne se rendait pas compte, c'est que Bohr les avait effectivement résolus d'une certaine manière, mais il les avait résolus dans le cadre d'une pensée qui, justement, n'est pas le réalisme ontologique, et opposé au réalisme ontologique. Donc, vous voyez, il restait un flou, et bon, le physicien n'aimait pas, je vous répète, en parler, parce que ça sentait philosophique. Et effectivement, jusqu'à l'intervention de Bell, le problème paraissait essentiellement philosophique. C'était une question d'opinion. Donc, il valait mieux l'écarter, si vous voulez, quand on faisait de la science. Alors, la découverte de Bell de 1964-65 est très importante parce qu'elle a ramené ce problème de la philosophie à la science. Cette découverte, c'est un test. Bell a montré que si on croit au réalisme ontologique, comme le faisaient la plupart de nos confrères, nos collègues, si on croit au réalisme ontologique et à la localité, c'est-à-dire au fait que les influences mutuelles entre objets décroissent avec la distance, et même que ceux qui sont tellement éloignés dans l'espace et proches dans le temps que la lumière ne peut pas aller de l'un à l'autre ne s'influencent absolument pas. Ça, c'est un principe fondamental de la relativité. Si on croit à ces deux choses, réalisme ontologique et localité, à ce moment-là, certaines inégalités entre résultats de mesure, ce n'est pas des inégalités entre entités supposées, des inégalités entre résultats de mesure doivent être satisfaites, alors que la mécanique quantique prédit qu'elles sont violées. Alors voilà, on disposait, à partir de cette découverte de Bell, on disposait d'un test. Donc, on pouvait trancher. Il se trouve que Bell et moi, par exemple, nous n'avions pas la même opinion sur... Nous ne faisions pas le même pari, si vous voulez. Nous faisions des paris opposés. Lui, il était disciple d'Einstein, il était réaliste et ontologique, il y tenait beaucoup, et il pensait donc que les expériences montreraient que la mécanique quantique est fausse. C'est l'idée de Dirac de tout à l'heure, n'est-ce pas ? Les théories sont mortelles, la théorie newtonienne est morte, la théorie de la relativité classique n'arrive pas à incorporer la quantique, et ben de même, la mécanique quantique va mourir. Et là, nous avons, d'après, c'était son idée, nous avons enfin le test qui va nous montrer les limites de la mécanique quantique. Moi et beaucoup d'autres, nous pensions au contraire que la mécanique quantique était tellement féconde, nous étions moins attachés au réalisme ontologique et par conséquent, nous pensions plutôt à croire que la mécanique quantique gagnerait. Mais enfin, peu importe nos opinions, si vous voulez. Ce qui comptait, c'est que nous avions là un test. Et alors, nous nous sommes donné du mal, Bell et moi et d'autres, mais enfin, en particulier nous deux, pour faire bouger la communauté des physiciens, en particulier les expérimentateurs, pour que ce test soit fait. Ce n'est pas très facile. La Société italienne de physique m'avait demandé à ce moment-là d'organiser une école d'été à Varenna, en Italie, sur les fondements de la mécanique quantique. Et naturellement, j'y ai invité John Bell et des expérimentateurs, des gens intéressés par ces choses-là. Et ça a commencé à mettre la question, à mettre, si vous voulez, la communauté physicienne dans le bain. Mais ça n'avançait pas assez vite. Et en 1976, Bell et moi, nous avons co-organiser un atelier de travail en Sicile, à Erice, dans le même but. Et là, nous avons invité des expérimentateurs qui avaient déjà commencé à faire des expériences là-dessus, mais c'était difficile et les statistiques étaient mauvaises. Et puis, nous avons aussi invité un jeune expérimentateur qui cherchait un sujet de thèse dont on m'avait dit qu'il était exceptionnellement brillant et qui avait nom Alain Aspect. Donc, nous l'avons invité, il a été intéressé, il avait contacté, ou il a juste après contacté John Bell lui-même, et il s'est convaincu que du point de vue expérimental, c'était quelque chose de difficile mais de faisable qui était intéressant. Donc, il s'y est mis et il y a travaillé longtemps avec une petite équipe. Alors, ça coûtait un peu d'argent. À côté de ce qu'on dépensait au CERN, je vous assure, c'était rien du tout. Mais enfin, ça coûtait quand même un peu d'argent et il fallait en trouver. Et on s'est un petit peu invité pour en trouver. Et finalement, ça a marché. Et en 82, Alain Aspect a pu sortir sa conclusion expérimentale qui était sans appel, qui était que c'est la mécanique quantique qui gagne, encore une fois. Bien que ça paraisse absurde, mais... Donc, effectivement, ces corrélations à grande distance, vous voyez, ça existe. ça existe et ça n'est pas explicable par la manière triviale dont on pourrait imaginer que ça s'explique, c'est-à-dire par le fait que les deux particules à la source ont été corrélées, que par conséquent cette corrélation s'est perpétuée. Cette hypothèse-là est rejetée précisément parce qu'elle conduit aux inégalités de Bell, alors que celles-ci sont violées par l'expérience. Donc, il y avait une corrélation inexplicable par les moyens de pensée habituels. Juste une petite remarque pour terminer, c'est que, comme je l'ai signalé dès 1965 dans mon tout premier livre, la non-séparabilité qui résulte de ces expériences ne permet pas d'envoi de signaux plus rapides que la lumière. Ce qui fait qu'une conciliation reste possible entre la physique quantique et la relativité restreinte. Cette conciliation consiste à abandonner le réalisme ontologique, non seulement pour la mécanique quantique, mais également pour la relativité, qui jusque-là, sous la houlette d'Einstein, avait été considérée comme appartenant, comme s'insérant dans le réalisme ontologique. Alors, si on accepte de généraliser cet abandon du réalisme ontologique, à ce moment-là, il n'y a plus de cette difficulté entre la mécanique quantique et la relativité, puisque justement l'envoi de signaux plus rapide que la lumière est de toute façon impossible. Voilà.
Merci pour tous ces éléments clés de la physique quantique, avec cette notion non-séparabilité qui remet en cause la causalité simplement locale, puisque là on est beaucoup plus global. Le réel voilé, l'abandon du réel ontologique pour le physicien. Bon, on va passer à une deuxième partie. Plus sur les conséquences de cette vision du réel et évidemment de la place de l'observateur là-dedans. Alors, quand on a discuté ensemble, on se posait la question, et je vais vous la reposer ici parce qu'elle me paraît essentielle, dans les conséquences, qu'est-ce que vous répondez lorsque des biologistes, alors qui seraient plus matérialistes, ils ne sont pas tous matérialistes les biologistes, hein, vous disent que l'esprit émerge de la matière? Vous qui avez étudié du point de vue du physicien quantique la matière, qu'est-ce que vous répondez à cette question qui est souvent donnée en ces 200 ans de Darwin en particulier, dans cette année? En tant que physicien, qu'est-ce que vous dites?
Bon, eh bien, ma réponse sera très rapide, je vais y insister. Bien sûr, les gens qui affirment ça se placent tous dans le cadre du réalisme ontologique, ce qui est la position normal, habituel de scientifiques et surtout des scientifiques qui ne sont pas des physiciens. Bien sûr, je n'ai rien contre la théorie de l'évolution, mais elle ne concerne que la réalité empirique, c'est-à-dire ce qui nous apparaît. Selon la théorie du réel voilé que je viens de vous exposer et vous justifier, tous les objets, y compris les neurones bien sûr, sont des apparences pour la conscience. Or, on ne voit pas comment de simples apparences pour la conscience pourraient engendrer cette même conscience. Voilà, c'est tout.
Une autre question qui va toucher maintenant au domaine de la spiritualité. Alors, peut-être que là, les mots sont délicats, mais il m'a semblé comprendre que cette réalité empirique est la seule atteignable directement par la science et qui en même temps ne tient qu'avec cette réalité, ce réel voilé. Le passage, l'accès, si on peut dire, la tentative d'accès en tout cas au réel, à ce réel voilé, ça pourrait être le domaine de la spiritualité, notamment au sens large de ce mot. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire votre propre recherche là aussi, positionnement?
Oui. Oui, en un sens. Ce qui se passe, c'est ceci. Puisque, selon la conception du réel voilé, la science ne peut plus espérer nous fournir une information exhaustive sur la nature de l'être en soi, puisqu'elle ne nous donne sur lui que d'incertaines lueurs, elle ne peut pas exclure que d'autres activités de l'esprit nous donnent elles aussi d'imprécises lueurs sur cet être en soi. Ce qui fait justice de l'idée qu'il y aurait d'une part la science qualifiée, seule qualifiée pour atteindre le fond des choses, et d'autre part l'art, la musique, la poésie, l'émotion, etc., qui seraient confinées au seul agrément. Je dis que, alors que si, sur le plan de l'accès à la réalité empirique, la science est seule reine, en revanche, elle ne jouit d'aucun privilège lorsqu'il s'agit du fond des choses. Que là, l'émotion artistique, par exemple, se trouve au moins à l'égalité avec elle, l'une comme l'autre ne nous fournissant que des lueurs, précieuses certes, sur un mystérieux domaine qu'elle ne nous laisse qu'entrevoir. Alors je dirais que, Nous sommes à la fois dans la science, mais aussi dans la philosophie et même dans l'émotion, c'est-à-dire dans la littérature. Je dirais que Marcel Proust est l'auteur qui a le mieux rendu l'expérience de telle lueur. Et j'ai récemment lu un petit livre de Jean-Noël Contensou, intitulé, un curieux titre, « Fugue en Dieu majeur », mais si vous le lisez, vous comprendrez, qui illustre très bien cette expérience, justement. Et je dirais que, de mon point de vue, comme du sien, il en va dans les grandes lignes de même, s'agissant non plus de l'émotion artistique, mais de la spiritualité, laquelle est avant tout expérience intérieure, et qui ne va pas sans le sentiment de mystère. Une spiritualité sans mystère, à mon avis, ce serait zéro. Enfin, le mystère est consubstantiel, à mon sens, à la spiritualité.
Alors, on va revenir un peu plus loin à la spiritualité, mais évidemment, quand on pense au niveau philosophique, on se dit comment vos positions rejoignent-elles ou se démarquent-elles de philosophes comme, alors on va regarder d'abord Platon et Spinoza, et puis on en prendra d'autres après.
La position de Platon et la mienne tient évidemment à ce que dans le mythe de la caverne, il est bien souligné que nos sens ne nous donnent accès qu'à des apparences. Les ombres, n'est-ce pas, sur le fond du mur de la caverne. Et que ce qui est vraiment, c'est-à-dire les idées platoniciennes, est d'une nature bien différente des apparences en question. Ben, c'est aussi ce que dit finalement, n'est-ce pas, puisque mon réel voilé est également bien différent des apparences sous lesquelles nous le pensons le voir, puisque apparemment il n'y a pas dans l'espace. La non-séparabilité semble bien nous montrer qu'il est difficile de le concevoir dans l'espace. Et probablement, ça c'est moins sûr, mais probablement qu'il n'est pas dans le temps non plus. Donc il est vraiment lointain par rapport à nos concepts. Donc voilà, c'est ça qui me rapproche de Platon, bien qu'il y ait naturellement dans le détail de sérieuses différences. Et ce qui me rapproche quelque peu de Spinoza, c'est qu'il n'admet qu'une seule substance, qui est Dieu, et qui est perçue ou conçue, soit comme matière ou étendue, comme il dit, soit comme esprit. Ce qui rapproche un peu le Dieu spinozien de mon réel voilé, que nous percevons soit sous les apparences d'objets, soit sous les apparences d'état de conscience. Mais ce qui m'éloigne de Spinoza, c'est qu'il considère cette substance comme connaissable. Alors que je souligne personnellement que justement, elle n'est pas connaissable, elle n'est pas atteignable par la physique, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure.
Alors, il y a un autre que vous aimez beaucoup, c'est Jaspers.
Oui, j'aime bien Jaspers. Il n'est pas à la mode, mais je l'aime bien. Et pour la même raison, je me sens proche de Jaspers quand il affirme que l'être ne peut être ni objet ni sujet, et qu'il ne peut être que l'englobant, qui ne se manifeste que via une scission, c'est son vocabulaire favori, si vous voulez. L'englobant, évidemment, correspond plus ou moins à mon réel voilé. Alors, ma différence avec Jaspers, la principale différence que je vois entre moi et Jaspers, ce n'est pas des questions de conception des choses, c'est simplement que Jaspers, lui, prétend tirer ça de la pure philosophie. Et il tire ça de l'affirmation, selon lui, parfaitement évidente, que l'être ne peut être ni objet ni sujet. Mais bon, il y a beaucoup de gens pour qui cette affirmation n'est pas évidente du tout. Et donc, je considère que j'apporte peut-être un plus en donnant des raisons fondées sur précisément la science actuelle.
Vous m'avez dit aussi que vous aimeriez bien aborder ce que dit Schrödinger.
Ah oui, Schrödinger. Schrödinger est un très curieux personnage. Nous le connaissons, enfin les scientifiques qui sont ici le connaissent évidemment. Tout le monde connaît le nom de Schrödinger, l'auteur de l'équation de Schrödinger. Encore une fois, l'équation la plus importante de la mécanique quantique. Eh bien, nous ne savons pas tous que Schrödinger, en fait, se sentait finalement, semble-t-il, plus philosophe que physicien. Et en tant que philosophe, il jugeait, comme à la suite de Ernst Mach, que nous disposons d'un jeu de sensations élémentaires avec lesquelles nous pouvons construire soit la science, soit l'affectivité, le beau, le laid, le bien, le mal, Dieu et l'éternité, mais pas les deux à la fois, pas à la fois la science et l'affectivité. Et c'était pour ça que quand on regarde, il parlait du temps où la physique classique régnait naturellement, que quand on regarde la science, les résultats de la science, on s'étonne de n'y trouver justement ni le beau, ni le laid, ni etc. Et donc il trouve l'explication de Marc satisfaisante parce qu'il dit c'est comme avec un jeu de Lego. L'enfant peut construire soit la muraille de Chine, soit une locomotive, mais il ne peut pas construire les deux à la fois. Eh bien, cette même idée qu'il empruntait s'agissant des sensations élémentaires. Alors, il disait construire. Il disait construire parce qu'il était idéaliste. C'était un philosophe idéaliste, c'est clair. Dans ma conception du réel voilé, je dirais aussi construire. Mais quand même avec l'idée que par là, au moins dans la branche science, on arrive malgré tout à glaner certaines lueurs sur le réel, sur l'être. Je prenais l'exemple tout à l'heure des constantes universelles. Alors, dans ces conditions, il me paraît normal que dans d'autres branches, celle de l'affectivité, on arrive finalement aussi à certaines lueurs sur l'être, mais cette fois de type affectif. Et ces lueurs, c'est la spiritualité, à mon sens.
Alors, le temps tourne, mais je vais encore prendre deux questions, si vous voulez bien, puis la dernière là. Prendra à la fin comme oui. conclusion, si ça vous va bien. Dans vos livres, vous parlez souvent de l'appel de l'être. L'appel de l'être. Là, vous avez beaucoup parlé de l'être. Là, c'est l'appel de l'être. C'est intéressant que vous nous en disiez un peu plus aussi.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que dans plusieurs de mes livres, j'ai avancé l'idée que l'esprit humain conserverait une sorte de vague souvenir. Mais un souvenir atemporel, les concepts nous manquent dans ce domaine, mais un souvenir atemporel de cet être antérieur à la scission aspérienne, de cet englobant qui coïncide avec mon réel voilé. Je suis même allé jusqu'à évoquer des ponts en fil d'araignée qui nous relieraient à cet être, ainsi que d'énigmatiques appels de l'être que vous avez relevé, enfin l'idée que vous avez relevée. Ce sont là des images à la fois incertaine et non tout à fait conceptualisable, mais possible. Dans mon schéma du réel voilé, ces vues sont possibles, en ce sens qu'elles ne sont pas exclues par les données qu'on a, alors qu'en physique classique, elles paraissaient être exclues par les données qu'on a. Donc, on peut, si on veut, sans se sentir coupable d'infantilisme ou de je ne sais quoi d'autre, on peut effectivement, si ça correspond à votre sensibilité, pensez sérieusement à ces ponts en fil d'araignée entre nous et l'être, ou même à ces appels de l'être. Je n'en dis pas plus, si vous voulez. Ça me paraît une chose légitime, mais naturellement, ce n'est pas une chose que puisse démontrer. C'est tout à fait loin de ça, comme vous pensez bien.
Enfin, la dernière question, comme on rentre dans le domaine de l'indicible, quelque part, du mystère, vous m'avez dit être aussi intéressé par une des manières de faire de la théologie dans l'histoire, la théologie apophatique.
Oui,
donc, ça vaut le coup de dire ce que c'est aussi.
Oui, je veux dire un peu de quoi il s'agit. Au 4e, 5e siècle après Jésus-Christ, il s'est développé, comme nous savons tous, à Alexandrie, une école philosophique très importante, les néoplatoniciens. Et cette école, initiée par Plotin, a repris le platonisme et, bon, je ne vais pas insister sur ces développements, mais les idées de cette école ont été reprises par des chrétiens, et en particulier par un auteur qui s'est appelé l'Aréopagite, Denis l'Aréopagite. C'est-à-dire qu'il s'est présenté comme étant le membre de l'Aréopage qui, au temps de saint Paul, a été converti par saint Paul au christianisme. Et il a publié des choses. Alors ça nous paraît inquiétant, mais bon, il faut dire qu'il a été pris comme tel par beaucoup d'auteurs, en particulier par saint Thomas d'Aquin, et des gens aussi sérieux que ça, pendant tout le Moyen-Âge. Ce n'est guère que Erasme qui a découvert le pot aux roses et que ce Denis, dit l'Aréopagite, était en fait un néo-platonicien, si vous voulez, mais un néo-platonicien chrétien. Alors ce qui est intéressant chez lui, c'est que c'est un penseur très intéressant. Et alors ce qu'il souligne, c'est que Dieu, c'est-à-dire l'origine, l'être ultime, le réel voilé, appelez-le comme vous voudrez, est inaccessible à la pensée conceptualisée, qui est bien au-delà de tout ce que nous pouvons arriver à décrire. Et que donc il faut se méfier des descriptions qui tentent d'entrer trop dans des détails, qui font référence à nos concepts à nous, qui sont des concepts qui, comme je le disais tout à l'heure, reflètent plus notre structure à nous que la réalité en soi, et bien entendu que la réalité de Dieu. Et je vois une analogie entre... L'analogie est évidente, si vous voulez, entre cette pensée de théologie négative ou apophatique et ma conception du réel voilé. La plupart des penseurs disent, par définition, ce qui n'est pas conceptualisable ne nous concerne pas. Nous n'avons pas à y penser. Et ce que j'apprécie dans Denis l'Areopagite, parce que je pense comme lui, c'est que le contraire. Il dit qu'au contraire, cet indicible est essentiel, est l'essentiel. J'ai souvent eu l'impression que l'Église était assez sceptique vis-à-vis de la pensée de Denis l'Aréopagite, bien que curieusement, Maritain, lui, en fait l'éloge. Mais ce qui m'a rassuré, c'est que l'année dernière, en tapotant, en pianotant sur Internet, j'ai découvert par hasard un texte de Benoît XVI, qui parlait de ça. Il parlait de Denis l'Aréopagite, cette communication qu'il a faite lors d'une audience à donner à plusieurs pèlerins, veut dire. Et il en disait beaucoup d'éloges. Alors vous trouverez cette communication certainement sur Internet, vous saurez sûrement la trouver, c'est pas difficile.
Merci beaucoup, l'essentiel, l'indicible, et vous vous y croyez. On peut applaudir, je pense, Monsieur d'Espagna.
Vous venez d'écouter Bernard d'Espagna de l'Académie des sciences morales et politiques. Dans une conférence organisée au Collège des Bernardins, le philosophe et physicien livrait ses réflexions sur la matière et sur l'approche philosophique que l'homme peut avoir sur la physique. Il répondait aux questions de Thierry Magnin, vicaire général du diocèse de Saint-Étienne. Le Collège des Bernardins organise des conférences tout au long de l'année. C'est pourquoi je vous invite à consulter leur programme sur le site collegedesbernardins.fr.